Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Salut! Je m'appelle Solène Rigoulet et bienvenue dans Friendship. Friendship, c'est le seul podcast entièrement dédié aux relations amicales. Des amis témoignent, racontent leur histoire pour t'accompagner dans tes relations et aussi parfois te divertir. L'amitié du jour n'en est pas vraiment une. Je reçois Aurore Bévalo, psychologue et coach chez L'Aparté Psy. Aurore est spécialisée en communication et relations humaines. C'était donc important pour moi de la recevoir dans Friendship pour parler de l'amitié sous un aspect un peu plus psychologique. Ensemble, nous avons parlé de bienveillance dans les relations, de hiérarchiser ses amis, de la naissance d'une amitié, mais nous avons aussi abordé des sujets plus difficiles comme le deuil, la perte d'un ami ou encore les amitiés toxiques. Aurore parle de tous ces sujets avec douceur et apporte son éclairage psy sur cette relation si spéciale et si complexe. Pour suivre son travail, tu trouveras en description toutes les infos. Merci à Aurore pour son temps et sa confiance et sur ce, je te souhaite une très bonne écoute.
Dans l'amitié, il n'y a pas de fidélité. Pas de légitimité à être jalouse, par exemple. Il n'y a pas d'alliance, pas de cérémonie, pas de champagne pour célébrer une amitié. Pourtant, de toutes les relations qu'on a dans la vie, il y a des chances pour que les amitiés soient celles qui durent le plus longtemps.
L'homme le plus riche est celui qui a les amis les plus puissants. You can count on me like one, two, three, I'll be there.
À quoi ça sert, les amis, si on peut pas leur parler de ce qui compte vraiment?
N'est-ce pas vous-même qui m'avez dit que rien ne remplaçait une véritable amitié?
Ton ami, c'est moi. Tu sais, je suis ton ami.
Bonjour, Aurore.
Bonjour, mais je suis ravie d'être là, en tout cas.
Je suis ravie de t'accueillir. C'est la première fois que je fais un épisode du podcast à domicile, j'ai envie de dire. Donc, je suis très contente que tu sois venue jusqu'à moi. On s'est déjà rencontrés. On a déjà fait un podcast ensemble dans le cadre de la série sur l'amitié et la solitude à l'âge adulte qu'on avait diffusée avec Anne Fleur de French Expat. On avait enregistré à distance et là, on est dans la même ville. Donc, on en profite pour se voir en vrai. Donc, merci d'être ici dans Friendship. D'habitude, je reçois toujours mes invités par deux. Donc, je leur demande de se présenter l'un et l'autre. Là, c'est plus compliqué. Donc, j'ai préparé une petite présentation de ce que je savais de toi et ce que j'ai cherché un petit peu.
Génial.
Donc, Aurore, tu es psychologue et coach. Dans ton travail, tu pratiques également l'hypnose pour permettre à tes patients de trouver des ressources insoupçonnées dans leur corps, on va dire, ou dans leur esprit, en tout cas. Et c'est pas marqué sur ton site, mais moi, je dirais aussi que tu es spécialisée en communication et en relations humaines. En tout cas, c'est là-dedans qu'on s'est rencontrés, donc pour moi, c'était important de le dire. Et donc, l'amitié, c'est vrai que c'est un sujet qui te connaît, on en a déjà parlé ensemble. Et tant mieux, puisque bah, en fait, on est là pour parler de ça. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose sur ta présentation ?
Écoute, je trouve que tu m'as très bien présentée.
Merci.
Je reprends des idées, en tout cas au passage, même pour moi, pour me présenter plus tard.
Ouais.
Parce que c'est vrai que le petit point sur la communication est important. Et effectivement, moi aussi, j'ai un parcours, on va dire, où j'ai beaucoup bougé. Donc, tout ce qui va être relations amicales et entretenir surtout aussi des relations amicales, ça, c'est un point que je connais et qui est challengeant. Donc, je pense qu'on va en parler.
Parfait. Et bah, moi, je te propose qu'on commence par le début, avant de parler de tout le côté psychologie de l'amitié, des relations, etc. Plutôt de savoir, toi, d'où tu pars, elles ressemblaient à quoi tes amitiés quand tu étais plus jeune ?
Alors, elles ressemblaient à quoi mes amitiés étant plus jeune ? C'est assez intéressant comme question, parce que finalement, quand j'étais petite aussi, personnellement, j'ai déménagé assez jeune, je crois que j'avais 5 ans, quelque chose comme ça. Et à 5 ans, quand on déménage, on a créé en fait des premières relations, des premières amitiés. Et le but du jeu, c'est de réussir à s'en créer d'autres avec, en plus, moi, je déménageais de Nancy à Lyon. Donc, c'est aussi deux mentalités différentes quand même.
Oui.
Je ne m'en rendais pas compte à l'époque, j'étais vraiment trop petite. Mais ça joue un rôle vraiment important. Et je sais que moi, j'étais plutôt la copine, enfin mes amis le diraient mieux que moi, je pense, mais j'étais plutôt la copine qui écoute et qui observe. Voilà, moi, j'ai un tempérament très introverti. Et c'est pour ça que très souvent, dans les vidéos que je fais aussi, j'aide les gens qui sont introvertis à être fiers d'eux, parce que je trouve que c'est un super tempérament aussi, au même titre que les extravertis. J'avais des amitiés qui étaient peu d'amitiés. Hein. J'ai jamais eu des groupes de 20, 30 amis à la Friends, etc. Ça, j'ai jamais connu. Par contre, on était quelques-unes, deux, trois, avec qui on s'entendait bien et qu'on partageait pas mal de choses.
Et donc, ces amis d'enfance, les amis de Nancy ou ceux de Lyon quand tu es arrivée à Lyon, c'est des personnes que tu côtoies toujours aujourd'hui ?
Alors, une, parce que après ça, ça s'est pas arrêté là. Hein. Moi, j'ai beaucoup déménagé dans ma vie après d'étudiante et puis de jeune adulte et d'adulte maintenant, parce que je continue encore à déménager. Donc, c'est pas simple de garder des amitiés. En plus, je trouve que quand tu crées des amitiés qui sont sur des bases de scolaires, quand tu commences à entrer dans la vie professionnelle, à faire de nouveaux choix, à identifier un peu plus tes valeurs, bah, ça peut parfois te séparer en fait, de tes amis que tu avais créés sur d'autres bases. Donc, moi, j'en ai une que j'ai gardée, Émilie, elle se reconnaîtra, j'ai la cite comme ça, elle sera contente. Elle est partie à Montréal, hein, donc c'est chouette, elle a fait le grand saut, elle a fait le grand saut là-bas. Et on essaye de se parler, mais c'est pas simple, parce qu'avec le décalage horaire et puis nos emplois du temps assez chargés, là, ça fait un moment que je dois la recontacter, en tout cas.
Ouais.
Voilà.
On va en parler, en fait, ça vient aussi d'entretenir ses relations, comment on fait, etc. Donc, ouais.
Complètement.
Moi, j'aimerais qu'on commence, maintenant qu'on a un peu situé, savoir quelle place avaient tes amis aussi, si t'étais plutôt gros groupe ou amitié individuelle, en tout cas. Quand on est jeune, en fait, on va dans la cour de récré. Moi, j'ai fait une série, c'est vrai, avec des enfants qui disaient, bah, nous, comment on sait qu'on est copains ? Bah, on a dit, est-ce que tu veux être ma copine ? Et ça a marché, quoi. Enfin,
oui.
Quand on est adulte, avoir ce genre de recul, c'est beaucoup plus compliqué. Comment est-ce qu'on sait qu'on est vraiment amis avec quelqu'un ?
Alors, je dirais qu'un peu comme les enfants, hein, ça sent. Finalement. Et si on a envie de décortiquer ça pour mettre un peu de concret là-dedans, je pense qu'il y a deux points sur lesquels il faut être attentif. En fait, on peut sentir qu'on est ami avec quelqu'un et on peut savoir qu'on est ami avec quelqu'un. Ça va dépendre aussi de comment tu hiérarchises en fait tes amitiés. Là, je parlais, c'est marrant, avec un de mes patients récemment. Et il me disait, oui, moi, j'ai une hiérarchie dans mes amis. Il y a les amis, les copains, les connaissances, les potes. Je dis, bah, très bien, ok, chacun sa hiérarchie. Et effectivement, c'est important que chaque personne ait sa propre hiérarchie pour savoir en fait tout simplement à qui je peux confier quelque chose. Et ce qui me permet de dire que pour vraiment savoir qu'on est ami avec quelqu'un, bah, je dirais le plus important, c'est d'être sur les mêmes valeurs. En tout cas, de sentir qu'on a un système de valeurs qui est assez proche l'un de l'autre. Parce que si, par exemple, moi, ma valeur première, c'est l'altruisme, voilà, ou la générosité, et que j'ai quelqu'un en face de moi que je pense être mon ami, mais qui, en fait, n'a pas du tout cette valeur-là, voire agit à l'opposé, ben, on va tout le temps être en conflit. Et puis, il y a un moment où on aura du mal à communiquer ensemble ou à partager.
Et tu crois que ça ne marche pas, ce genre de relation dans le conflit ? Est-ce qu'une amitié, c'est forcément une relation où c'est calme, où il y a peu de disputes ou est-ce que ça peut aussi marcher ? Est-ce que ça peut aussi être une véritable amitié malgré les disputes régulières, le conflit sur certains
point de valeur, en tout cas.
Oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. Non, le conflit, c'est hyper important. Hein. Je n'arrête pas de le dire en général. Une vie sans conflit, mais même au travail hein, ou en couple, ce n'est pas forcément sain. Parce qu'en fait, le conflit, c'est ce qui permet de sentir que je suis différent de l'autre et que j'ai le droit d'avoir mes avis et mes opinions. Simplement, tu as plusieurs types de conflits. Et si tu es en conflit de besoins avec ton ami parce que tu as des besoins qui divergent, à un moment, j'ai envie de ça, toi, tu as envie de ça, moi, j'ai besoin de cette sécurité-là, toi, pas du tout. C'est OK parce qu'un besoin, ça peut se travailler, tu peux renforcer des choses, tu peux gagner en confiance en toi, enfin ça va. Par contre, quand tu arrives à être à une situation où tu entres en conflit de valeurs, là, c'est plus compliqué parce que ton système de valeurs, il faut bien se dire que c'est ce qui fait ta personnalité. Donc, c'est ton squelette à toi d'identité. Et si à un moment, tu ne te sens pas compris en fait, par l'autre dans ton système de valeurs, bah, tu ne vas pas te sentir respecté et tu ne peux pas t'épanouir. Je pense que dans une amitié, le plus important, c'est de se sentir quand même respecté comme on est et de sentir qu'on peut s'épanouir.
Est-ce qu'il y a une différence entre les amitiés de jeunesse et les amitiés qu'on se crée à l'âge adulte ? Parce que souvent, quand certains parlent des amis d'enfance, on a l'impression que, on parlait de hiérarchie, on a l'impression que ces amis d'enfance, ils sont plus élevés sur l'échelle que les amis qu'on s'est fait il y a un ou deux ans, alors que... Peut-être pas du tout au fond de nous, mais en tout cas, peut-être parce qu'ils ont vécu en termes d'expérience, en tant qu'années avec nous aussi. Est-ce qu'il y a une différence là-dessus ?
Et ça, je dirais, ça dépend des gens. En gros, il y a des personnes qui sont plus sensibles au temps passé avec quelqu'un. Donc, si j'ai rencontré mon ami quand j'étais enfant, forcément, on a vécu plus de choses. Après, il faut bien se méfier aussi des acquis. Parce qu'on change en fait au fur et à mesure du temps. Et si je veux à tout prix me raccrocher à mon amitié d'enfance parce que, je ne sais pas, j'ai un idéal d'amitié qui me dit que je devrais être amie pour la vie avec mon meilleur ami de primaire, et bah peut-être que je vais attendre de ce ou cette meilleure amie des choses qu'il ou elle ne peut pas me donner. Et là, je vais nous enfermer tous les deux dans un système où ça ne sera pas bon ni pour l'un ni pour l'autre. Donc en fait, je pense que c'est important toujours de repenser un peu ses amitiés et de se dire avec qui je me sens vraiment respectée et vraiment en totale autorisation d'être moi-même.
Se sentir en totale autorisation d'être soi-même, je suis totalement d'accord avec ça. Et en même temps, je me dis que parfois, en fonction des gens avec qui on est, malgré le fait que ce soit nos amis, on s'adapte à la personne avec qui on est. On n'est pas toujours la même personne. Moi, la première, je sais qu'il y a des amis avec qui je n'interagis pas de la même manière qu'avec d'autres. Et ça n'empêche pas que je sois à l'aise. Comment est-ce qu'on l'explique, ça ?
J'allais te poser une question. Tu vois, c'est le côté psy qui revient à la charge. J'allais dire, mais même si tu agis peut-être différemment en fonction de l'un ou l'autre, parce qu'il y a un petit mimétisme toujours qui est là, est-ce que pour autant, tu as l'impression de te travestir complètement ou est-ce que tu restes quand même alignée ?
Ah oui, non, il n'y a pas de... Je reste alignée avec moi-même, juste il y a plusieurs moi-même. Et donc, il y en a qui ressortent en fonction avec les gens avec qui je suis, quoi.
Bon, ça, c'est logique. Hein. Et après, je pense même que si tu es avec la même personne, si tu la vois à différents moments, tu ne vas pas être tout à fait la même non plus en fonction des sujets. Donc, non, l'idée, c'est vraiment de sentir que tu es capable d'être alignée. Il y a un mot en psychologie que moi, j'utilise beaucoup qui s'appelle la congruence. C'est un concept qui vient d'un psychologue qui est assez génial, qui s'appelle Carl Rogers. Et en fait, quand tu es congruent, ça veut dire que tu vas être aligné. Donc, tu fais des choses, tu agis en étant aligné avec toi-même, donc avec tes valeurs et tes besoins. Et en général, tu dis ce que tu fais et tu fais ce que tu dis. Donc, c'est vraiment un alignement général. Et là, je disais ça parce que à partir du moment où tu peux te sentir aligné, même si tu as différentes facettes, moi-même, il y a des moments où avec des gens, je me surprends à être de telle ou telle façon. Si tu te sens OK et respecté, c'est ça en fait qui compte.
À un certain âge, moi je sais que là je suis un peu dans cet âge-là et encore peut-être que je le quitte petit à petit. On voit beaucoup nos amis pour sortir, boire un verre, faire une soirée, etc. Est-ce que les gens sont vraiment nos amis si c'est la seule activité qu'on partage ?
En fait, ça dépend parce que ça peut être une porte d'entrée, oui. Ce que tu dis, si la seule activité qu'on partage, c'est d'aller boire un verre, bah, si au moment où tu bois ce verre, tu peux te livrer ou tu peux rentrer un peu dans l'intimité, c'est important. Et encore une fois, on est tous différents. Pour une introvertie, moi, je sais que mes amis, ça prend du temps pour eux de me connaître vraiment et ça peut être frustrant pour eux, je le sais. Mais c'est mon rythme, donc chacun son rythme. Alors qu'il y en a qui vont se confier tout de suite. Donc, en fait, je pense que l'idée, c'est vraiment de se sentir bien dans ce que tu fais avec les personnes avec lesquelles tu es. Et après, est-ce que c'est vraiment si important que ça de hiérarchiser, en fait, amis, copains ? Peut-être la seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est de savoir sur qui tu peux compter si tu as vraiment un problème ou si tu as vraiment besoin. Et ça, ça te permet peut-être d'être un peu plus sûr de certaines personnes.
Ouais. On parle de hiérarchie depuis tout à l'heure, ça me fait penser... je discutais avec une proche qui me disait qu'elle était en train de hiérarchiser financièrement ses amitiés, ce qui est plutôt surprenant comme ça. Et en fait, je me dis qu'inconsciemment, on le fait un petit peu tous quand on fait des cagnottes pour les anniversaires ou quoi. En fonction des gens, c'est vrai qu'on ne met pas forcément la même somme. Et donc, c'est vrai que c'est déjà une hiérarchie qui est induite, quoi, finalement. Elle, elle en parlait parce que c'est surtout la période en ce moment des EVG, des EVJF, etc. Et de se dire, bah, en fait, est-ce que je suis prête à mettre 150 euros pour un week-end pour cet ami-là et pas pour l'autre ou inversement, quoi. Et c'est vrai que, je sais pas comment on l'explique ça en psychologie, mais finalement, on hiérarchise tout le temps nos relations sociales. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça? Parce que quand on dit que c'est financier, c'est encore plus surprenant, mais finalement, c'est comme ça dans le quotidien, quoi.
Mais de toute façon, on hiérarchise tout. Enfin, notre cerveau est fait pour classer et catégoriser les choses. Parce que si on catégorisait pas, on se retrouverait avec tous les éléments de détail tout le temps. Et tu vois, rien qu'en termes d'attention, tu saurais pas dire si quand tu traverses la rue, il vaut mieux que tu fasses gaffe à l'oiseau qui chante ou à la voiture qui arrive.
Oui.
Ce serait quand même super dommage.
Effectivement.
Donc ça, partant de là, en fait, notre cerveau, il est fait comme ça pour catégoriser, hiérarchiser, parce que c'est plus simple et que ça permet de traiter toutes les informations qu'on a, qu'on doit traiter en fait dans notre vie de tous les jours. Après, tu as des systèmes de classification comme Maslow qui classifiait les besoins. Parfois, la théorie, là, elle est un peu remise en question, mais moi, je la trouve quand même assez juste. Et c'est intéressant parce que c'est sûr qu'en tant qu'être humain, bah, tu as des besoins, c'est la fameuse pyramide qui sont à la base, où tu as besoin de te sentir d'abord en sécurité physiologique, de manger, de boire, après en sécurité matérielle. Et puis, hop, plus tu montes dans les étages, plus tu as besoin de faire partie d'un groupe et à la fin, tu as besoin de t'accomplir. Donc, on voit que c'est vraiment des hiérarchies de besoins. Et pour les amitiés, bah, ça répond un peu à la même chose. Hein. Notre cerveau a besoin d'y voir un peu plus clair et de donner du temps, parce que là on parle d'une ressource qui est la ressource financière, mais tu as la ressource temps aussi qui est hyper précieuse. Et tu as pas mal de gens, moi y compris, hein, où parfois on se dit bah, est-ce que mon temps vaut que je le dépense avec ces gens-là? Donc faut être à l'aise avec ça, et surtout bah, plus on le fait consciemment, moins on rentre dans des systèmes de culpabilité. Et c'est ça qui est vraiment dommage, c'est quand on n'en est pas conscient et qu'on fait quand même cette catégorisation mais qu'on se le reproche après.
Mais du coup, ça vient aussi un peu avec l'expression, la fameuse expression « meilleur ami », où en fait, il y en a beaucoup qui disent « moi, je l'utilise pas parce que dans mes amitiés, il n'y en a pas un qui mérite d'être au-dessus des autres ». Mais finalement, inconsciemment, de ce que tu expliques, on a forcément une hiérarchie.
Alors, parfois, c'est peut-être pas forcément par personne. Okay. Peut-être que parfois, tu as des groupes. Tu as un groupe avec lequel tu te sens super bien et tu as envie de passer plus de temps. Et je pense que c'est très fluctuant aussi. Donc, le problème peut-être avec le mot meilleur ami, c'est que c'est comme si ça te figeait ça dans le temps et que tu étais obligé de tamponner ton ami avec un tampon meilleur ami et que ça pouvait pas bouger. Alors que moi, je vois certaines personnes qui, en fonction aussi des choses qu'elles traversent dans leur vie, elles vont se sentir plus attirées par certains amis et puis à d'autres moments par d'autres. Parce que bah, tu as plus de connivence avec certaines personnes sur certains sujets.
Oui, c'est pas parce qu'en fait, y en a certains qu'on voit moins, que l'amitié est moins forte. C'est juste en fonction des moments, en fonction de l'humeur aussi peut-être parfois, de la vie, etc. quoi.
Par exemple, j'ai des amis, alors comme je, encore une fois, hein, je déménage beaucoup, donc c'est sûr que les amitiés se tendent, en fait, se tirent. Mais je sais qu'Émilie, par exemple, ça fait un moment qu'on ne se parle pas, mais si on se parle, on recommence comme si on venait de discuter hier, en fait, et on reprend des nouvelles. Et je sais qu'elle est, c'est ma plus grande supportrice, dès que je sors un truc, elle like, enfin, ouais, c'est génial. Et tu sens ce soutien-là et tu te dis, c'est joli parce que si quelqu'un venait regarder mes relations aujourd'hui, peut-être qu'il penserait même pas à cette personne parce que je la côtoie pas beaucoup. Et pourtant, c'est quelqu'un qui compte.
C'est souvent dans les interviews que je fais avec mes invités qu'ils le disent, qu'ils n'ont pas besoin de s'écrire tous les jours pour que l'amitié soit forte et que quand ils se voient, c'est comme s'ils s'étaient quittés la veille, notamment pour ceux qui habitent pas dans la même ville. Et c'est vrai qu'ils le disent souvent. Du coup, vu que ça revient régulièrement dans les interviews, je me demandais si concrètement ça s'expliquait par des aspects psy ou quoi, en tout cas d'études psychologiques, quoi, de dire bah, en fait... oui, cette personne, elle est là, mais elle n'est pas là, quoi. Enfin...
En fait, ça peut s'expliquer par plusieurs paramètres, mais le point important, c'est le sentiment de respect et ce qu'on appelle un peu l'acceptation inconditionnelle. C'est un peu le principe aussi qu'on attend souvent de ses parents, de sa famille. Alors là, je pourrais faire un autre topo là-dessus parce qu'il faut faire gaffe de ne pas attendre trop de choses.
Ouais.
Parce que justement, on peut être déçu. Mais par moments, tu ressens que l'autre t'accepte vraiment comme tu es. Et c'est ce qui te permet de te sentir respecté et que quoi que tu dises, quelque part, bien sûr, sauf si tu es vraiment toxique ou agressif, il ne faut pas non plus tirer sur la corde. Mais en tout cas, si tu restes dans la limite du raisonnable, tu sais que même si ça fait plusieurs moments, enfin un long moment que vous ne vous êtes pas parlé, vous vous retrouverez à peu près dans le même partage. Et c'est ça, en fait. Je pense que c'est ce socle de respect vraiment et d'acceptation quasi inconditionnelle qui fait que quand tu retrouves une personne, tu peux lui faire un update rapide sur ce qui s'est passé dans ta vie et ça va, ça repart parce qu'en fait, vous avez un socle vraiment de valeur qui vous relie.
Pour les amitiés, c'est vrai qu'on fait souvent le parallèle, même avec mes invités, du duo amical et de la relation de couple, de la relation amoureuse. On dit souvent que de se relever d'une rupture amoureuse, ça prend du temps, qu'il faut laisser faire le temps. Et souvent, dans ces moments-là, les amis sont présents, passent du temps avec nous, etc., pour éviter qu'on finisse au fond du canapé ou au fond de son lit avec un pot de glace pendant des mois. Mais on parle peu, voire quasiment pas, de la rupture amicale. En tout cas, quand on fait le deuil d'une amitié qui s'est finie pour X ou Y raison, les gens sont pas là. Enfin, ils sont pas là. Ils sont moins présents que pour une rupture amoureuse. Est-ce que la rupture amicale fait moins souffrir ? Est-ce que c'est moins important ? Comment est-ce qu'on se positionne là-dessus ? Parce que je pense qu'il y a quand même des personnes qui en souffrent fortement.
Complètement. Et c'est très vrai. Enfin, ça m'a plongée dans une grande réflexion. Ah. Je pense que tu as dû le voir. Parce que c'est très vrai ce que tu dis. On n'en parle pas souvent. En fait, pour être honnête avec toi, j'étais en train de me demander qu'est-ce qui fait, oui, qu'on hiérarchise comme ça rupture de couple ou rupture amicale. J'ai pas la réponse nette et franche. Je pense que c'est plus parce que dans l'inconscient un peu collectif, quand tu es en relation de couple, tu t'investis plus peut-être parce que tu vis souvent avec la personne, enfin quand ça fait un moment. Et encore, tu remarqueras que les gens sont pas là de la même façon pour une personne qui s'est séparée de la personne avec laquelle elle était depuis 7 ans que si ça fait un mois seulement que tu sortais avec quelqu'un. Bon. Donc je pense que dans l'imaginaire collectif, si tu as vécu en couple, t'as construit des habitudes, et c'est vrai, t'as quand même construit des habitudes un peu plus au quotidien que quand tu vis seul chez toi et que tu vas voir tes amis. Après, je suis pas trop d'accord avec cette hiérarchie-là, parce que quand tu te sépares quand tu romps une amitié, tu peux vraiment y laisser des plumes, parce que t'as construit en fait ton amitié sur une vraie relation de confiance. Il faut jamais oublier ça. Hein. Ça veut dire que tu t'es probablement livré, t'as confié des choses, t'as partagé peut-être des valeurs, des besoins. Donc, tu t'es investi dans la relation et du jour au lendemain, s'il n'y a plus rien, ça te laisse un vide qui est énorme parce que tu as forcément pris des petites habitudes aussi avec cet ami. Il faut se reconstruire soi-même. Il faut se dire, OK, c'est pas parce que j'ai rompu avec cette personne en amitié que ça fait de moi une mauvaise personne, parce qu'il peut y avoir toutes ces pensées-là négatives aussi. Et ça peut être très douloureux pour l'estime de soi et la confiance en soi.
Ouais. Quand on est en couple, bien sûr qu'on n'imagine pas la fin de cette relation-là. Vu qu'on entend plus parler des ruptures amoureuses que des ruptures amicales, ben oui, c'est difficile à vivre une rupture amoureuse, mais finalement, on sait que ça arrive. Alors qu'en amitié, ben, on n'en parle pas. Donc en fait, une amitié, c'est censé durer presque toute la vie. Et que si on se sépare, c'est une séparation que la vie aura créée, mais sans qu'on se le soit dit, faut que je te parle, c'est la fin de notre relation, quoi. Et donc, quand ça arrive comme ça, ou même finalement juste par la vie qui fait qu'on s'est éloigné, la personne reste toujours dans un coin de nos têtes et on se dit « Ah, qu'est-ce que ça aurait pu donner si on était resté proche ?» Parce qu'en amitié, justement, il n'y a pas de fin, normalement, à ce genre de relation.
Et en même temps, ça, c'est vraiment une idée reçue. Oui. Parce que ça, c'est un travail que je fais beaucoup avec les gens qui viennent me voir, de faire du tri quand même dans ces relations, que ce soit amical ou familial même. Hein. Avec moi, tout le monde y passe.
Si vous voyez Aurore, vous n'avez plus de famille, vous n'avez plus d'amis.
Peut-être pas à ce point-là quand même. Non, mais c'est important en fait d'être bien aligné, je pense, toujours pareil. Pourquoi ? Parce que forcément, quand les gens viennent me voir, c'est qu'ils sont en souffrance.
Oui.
Si tout va bien, tu ne viens pas me voir en général. Hein.
Voilà. C'est sûr.
Donc quand tu es en souffrance, soit c'est une souffrance qui est propre à toi-même sur des choix que tu as faits, bon bref, ça j'en parle pas aujourd'hui, soit c'est lié à des relations. Et c'est pour ça que ça vaut le coup de refaire du tri dans ces relations. Si je parle plus d'amitié, souvent je retrouve des personnes, moi, qui sont coincées dans des relations amicales qui ne sont pas satisfaisantes et qui sont pas épanouissantes, parce que soit les personnes que je vois se sentent utilisées, et c'est quand même dommage de se sentir utilisée dans une relation d'amitié, soit elles peuvent se sentir aussi parfois dévalorisées. Hein, on n'en parle pas souvent, mais il peut y avoir des comportements de harcèlement hein, dans certaines formes d'amitié aussi. Et ça, il faut faire attention, parce que ce n'est pas de l'amitié, du coup. C'est une relation de pouvoir et de domination. Il faut faire gaffe à ça. Effectivement, quand tu fais du tri là-dedans, bah, y a un moment où tu te retrouves confronté à des vrais choix en disant bah, « je peux aussi choisir de mettre fin à une amitié ». Pas forcément en laissant le temps faire. Il y en a qui ne s'appellent plus, qui ne se parlent plus. Bon, bah, le temps fait des choses. Et là, peut-être que tu peux regretter parce que tu n'es pas complètement acteur de ce que tu as fait. En revanche, quand tu es acteur de ton choix, c'est-à-dire que vraiment tu l'as fait, tu l'assumes, tu peux aussi aller voir les gens en disant bah, « voilà, là maintenant, sur ces valeurs-là, je ne me sens pas respectée et je pense qu'il vaut mieux qu'on s'arrête là ». Et en général, ça se passe beaucoup mieux comme ça parce que tu sais pourquoi tu as fait ce choix-là, toi. Tu subis pas et il y a moins de rumination derrière.
Et tu parles de ces relations où certaines personnes peuvent avoir l'ascendant sur l'autre, parce que ça existe aussi, en fait, les relations toxiques en amitié. Comment est-ce qu'on s'en rend compte qu'on est dans une relation toxique en amitié ?
Ça, c'est un grand sujet, en fait. Moi, je dirais, il y a des red flags, tu vois. Il y a vraiment des choses que tu dois repérer. Et ça, c'est un sujet, j'invite vraiment tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui à y faire très attention. C'est un sujet aussi qui me touche. Moi, je vais rentrer un peu plus en profondeur parce que j'ai un passé où j'ai été vraiment harcelée, moi, quand j'étais à l'école. Donc, on va dire que c'est un peu ma spécialité maintenant, d'apprendre aux gens à reconnaître.
Malgré toi.
Ben voilà, c'est ce qu'on appelle la résilience. Hein.
Oui, c'est ça.
D'apprendre aux gens à reconnaître en fait, ces signes-là. Globalement, chacun devrait commencer par apprendre à se connaître. Si tu fais le point sur tes valeurs fondamentales, vraiment, sur ce qui fait que tu es qui tu es et que tu es content d'être qui tu es, et sur tes besoins aussi fondamentaux, ça va t'aider, ça va te servir de boussole, parce qu'à partir du moment où tu ne vas pas te sentir respecté là-dedans, ou même si tu n'arrives pas à mettre ce mot là-dessus, si tu sens qu'il y a un truc qui n'est pas OK, que ça cloche, que tu ne te sens pas bien dans la relation, parce qu'à chaque fois que tu côtoies la personne, soit tu culpabilises, soit tu te sens humilié, soit tu as l'impression que tu n'en fais pas assez, ben là, ça veut dire qu'il faut vraiment se poser des questions. Ce n'est pas toujours toxique, attention, hein, c'est juste que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Et une relation qui est une relation saine, ça ne devrait pas te faire te sentir mal dans ta peau.
Est-ce que parfois, c'est par phase ? Est-ce que parfois, une relation, on peut se sentir mal dans notre peau pendant un temps, mais quelques années plus tard, quelques mois plus tard, c'est mieux, quoi ?
Oui, complètement. Tu as complètement raison. Parce que, je rentre peut-être un peu plus dans le détail, mais souvent, en psychologie, on appelle ça la projection. Tu peux projeter ton mal-être sur les autres, malheureusement, sans t'en rendre compte. Par exemple, si tu traverses une phase où tu n'arrêtes pas de te remettre en question, ben peut-être que par moment, tu vas interpréter des choses que tes amis disent comme s'ils se fichaient de toi. Alors que pas du tout. Ça, c'est toi vraiment qui est en train de travailler sur un sujet peut-être ou qui a du mal avec toi-même. Il ne faut pas toujours se dire « Ok, ça vient de l'autre, c'est sa faute à lui. » Mais il ne faut pas non plus toujours se dire « Ça vient de moi et il faut que je m'adapte. » L'idée, c'est vraiment d'avoir un bon curseur et parfois, il vaut mieux être honnête avec les personnes qu'on a en face de soi, ses amis, en disant « Écoute, là, sur telle et telle chose, moi, je ne me sens pas OK. Peut-être qu'il faut qu'on prenne chacune nos distances, chacun nos distances et qu'on se revoie plus tard. » Et ça, souvent, ça peut apaiser les choses parce que soit tu mets de la distance et chacun grandit de son côté et on se retrouve, ça va mieux. Soit tu n'as même pas besoin de mettre de la distance parce que rien que le fait d'avoir dit ça, ça va provoquer une discussion. Peut-être qu'il y aura un petit conflit, mais au moins chacun va dire ce qu'il a à dire. Et là, on voit si on peut repartir sur des bases saines ou pas.
Tu parlais du curseur. Est-ce que... On a parlé des red flags, du curseur pour savoir comment on se sent dans la relation, etc. Est-ce que tu as des exemples concrets de red flags ou de te dire « Ok, là, s'il se passe ça dans ma relation, c'est que ça va pas, c'est que c'est en train de glisser sur la pente toxique. »
Ce que je vais te dire, c'est aussi des red flags que tu peux cerner dans les relations amoureuses ou familiales, en fait. Hein. Globalement, il y en a un gros. Si tu ressens le besoin de t'excuser d'être qui tu es, de t'excuser sur ce que tu fais, si à chaque fois que tu ressors du moment avec la personne en question, tu culpabilises et tu te dis « Oh là là, j'aurais dû faire mieux ça, j'ai pas été à la hauteur, etc. » Ça, c'est pas bon. Pareil, il y a un autre red flag qui s'appelle le gaslighting. Si à chaque fois que tu parles avec la personne, tu te sens dans un espèce de flou, c'est-à-dire que toi, tu as compris ce qu'elle t'a dit, elle te fait croire que tu n'as rien compris à ce qu'elle t'a dit. Tu vois, par exemple, Oui, tiens, il y a une personne qui me disait récemment, à chaque fois qu'elle rencontre, c'est une personne de sa famille, sa sœur en l'occurrence, elle se sent toujours mal dans sa peau derrière ce moment-là, parce que ça va être du style, tiens, je t'ai offert 2 paires de chaussures pour Noël. Et si elle se présente avec 1 paire de chaussures, c'est « Ah bah ok, t'as pas mis l'autre, c'est que tu les aimes pas ». Tu vois, c'est toujours des injonctions ouais, comme ça qui sont un peu particulières. Et donc là, la personne à qui je pense, elle sait jamais où se positionner. Et à chaque fois qu'elle ressort de ces moments-là, elle se sent super mal dans sa peau.
Oui, parce qu'elle est sûre, dans tous les cas, quoi qu'elle fasse, elle aura des reproches.
Voilà, c'est ça. Et ça, en fait, quand tu te retrouves dans des situations où t'es bloqué, ou quoi que tu fasses, ça va pas, où tu sais que tu vas culpabiliser, attention, faut pas se dire que l'autre personne est toxique. C'est juste que votre relation n'est pas bonne, en fait. Ouais.
Et ça, c'est possible de le travailler.
Oui, complètement.
On entend souvent parler de thérapie de couple. Est-ce que il existe des personnes qui viennent entre amis pour faire des thérapies amicales?
Alors moi, j'ai jamais vu ça. Ouais. Je sais pas. Je laisserai d'autres collègues répondre. Okay. Peut-être qu'elles ont déjà vu la situation. Souvent, ce qui est intéressant, c'est de se dire que si tu as des problèmes comme ça avec tes amis, tu peux faire un travail sur toi, effectivement. Et moi, je conseille quand même à chacun de faire un travail sur soi, de son côté. Même dans le couple, tu as la thérapie de couple, mais ça vaut toujours le coup aussi que chacun fasse un travail sur soi en plus. Donc là, c'est pareil. Je ne sais pas si ça existe. Hein. Là, je me pose vraiment la question. Je me dis qu'en systémie, ça doit exister certainement. Mais quoi qu'il en soit, le plus important, c'est d'apprendre à se connaître. Donc, c'est bien de passer par un travail personnel.
Tout à l'heure, on a parlé que quand il y a une rupture amicale, c'est souvent que la confiance a été brisée. Comment est-ce qu'on refait confiance en amitié ?
C'est souvent que la confiance a été brisée ou qu'on se rend compte qu'on est trop différent. Hein.
Oui.
C'est pas toujours qu'une histoire de confiance. Oui. Parfois, tu peux t'éloigner de certaines personnes parce que tu te rends compte que t'as plus rien en commun. Ça peut arriver aussi. Mais si je reviens sur ta question, ça demande un vrai travail sur ces piliers parce que pour faire confiance à quelqu'un, il faut d'abord que tu te sentes suffisamment solide. On parle souvent en psychologie des troubles de l'attachement. Et les troubles de l'attachement, c'est en fait à partir du moment où t'as peut-être grandi dans un environnement qui t'a pas apporté tout ce dont t'aurais eu besoin pour te sentir toi-même en sécurité avec toi-même déjà. Donc parfois, t'as des gens qui vont être très anxieux, ils vont toujours avoir peur de perdre l'autre. Ils vont avoir besoin de 10 milliards de preuves pour se sentir bien avec leurs amis, pour sentir qu'ils sont importants. Parfois, t'as des gens qui vont être évitants, c'est-à-dire que dès qu'ils créent une amitié et qu'ils sentent que ça se passe bien, ils vont avoir tellement peur de perdre l'autre qu'en fait, c'est eux qui vont rompre l'amitié avant que ça se passe. Toutes ces petites choses-là, en fait, ça demande un vrai travail sur ses propres schémas et surtout quand tu as eu un choc émotionnel qui parfois peut être un vrai traumatisme finalement, ça vaut le coup de se poser un peu et avant de se relancer dans des amitiés ou dans des relations couples, je dirais la même chose si on parlait de ça, et bien de bien cerner qui je suis. C'est simple quand je le dis, mais en gros c'est quelles sont mes valeurs, quels sont mes besoins et quels sont mes talents un peu, qu'est-ce qui fait que je suis unique. Et déjà quand tu sais ça, et bien, vu que tu es plus à l'aise avec toi-même, peu importe si l'autre va trahir ta confiance ou pas, tu as une base solide qui fait que tu ne t'écrouleras pas.
Pour faire le lien avec la confiance, je me souviens d'un de mes invités, Karim, qui disait que selon lui, l'amitié, c'était la relation la plus puissante qu'on pouvait avoir parce qu'on ne se trahit jamais. Pour lui, il n'y avait pas de raison d'avoir de la trahison en amitié, que vraiment, c'était pour ça qu'il mettait vraiment les amitiés au-dessus de toutes les autres relations. Et par contre, du coup, pour lui, il y avait ce risque en couple, mais pas en amitié. Je ne souhaite pas le contredire, mais en amitié aussi, il existe de la trahison. Est-ce qu'on peut le voir venir ?
Déjà, juste pour revenir sur ce qu'il disait, c'est chouette parce que ça montre bien qu'on a chacun nos systèmes un peu de pensée. Hein. Tu vois, moi, je n'aurais pas dit ça de l'amitié par raison très personnelle.
Ouais.
Je dirais plus ça du couple. Okay. Intéressant. Hein.
Bah oui.
Tu parlais de trahison, hein, c'est ça. Est-ce qu'on peut voir venir la trahison ? Ouais. Je pense que c'est compliqué. C'est compliqué parce que si tu vois venir la trahison, ça veut dire que quelque part, tu n'étais pas vraiment à 100% dans la relation. Tu avais une position un peu d'observateur aussi à un moment. Et forcément, quand on s'investit à fond dans une relation, et c'est bien parce qu'il faut ça pour que ça marche, sinon tu n'es jamais vraiment là en fait. Tu es tellement dans ce que tu fais, tu es tellement authentique peut-être, qu'il y a des choses que tu ne peux pas voir arriver. Faut plus, je pense, se fier à ce qu'on ressent dans ces moments-là, plutôt que de dire « je veux voir venir des signes », parce qu'après, si tu commences à penser à des signes, t'en vois partout, en fait, globalement. Il faut plus être vraiment attentif à ce qu'on ressent en soi-même. Et ça, ça demande aussi un petit travail quand même pour connaître ces sensations. Si tu ressens à un moment dans ton corps ou en termes de feeling qu'il y a un truc qui n'est pas OK, tu ne te sens pas bien, il y a un truc qui cloche, ben là, vraiment, il faut arrêter de se dire que c'est juste dans sa tête et que ça va passer. Vraiment. Et ça, moi, j'invite les gens à cultiver cette façon de réfléchir à soi-même. Si tu sens qu'il y a un truc qui n'est pas bon, c'est ton intuition qui est en train de te dire « attention, fais gaffe ». Donc ça, il faut l'écouter. Et au lieu de se dire « je vais mettre ça de côté », il faut plus se dire « ok, qu'est-ce qui me fait penser que ça ne va pas ?»
Est-ce qu'en amitié, on est moins conciliant qu'en couple ? Parce que moi, j'ai l'impression qu'en couple, on communique beaucoup pour pouvoir entretenir cette relation, pour se dire que ce qu'on a construit, c'est fait pour durer. Et donc, on va chacun travailler sur des petits détails de nos personnalités ou de notre manière d'être pour que ça convienne à l'équilibre du couple. En amitié, j'ai l'impression que c'est un peu plus « tu me prends comme je suis ». Quoi.
Et en même temps, j'ai tellement de contre-exemples. comme ça fait vraiment plus de 10 ans que je travaille maintenant, avec tellement de profils différents, moi j'adore ça, c'est hyper enrichissant pour moi. Je vois des histoires de vie qui sont complètement différentes et j'aurai, au moins 1000 contre-exemples à donner dessus.
Oui.
Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des personnes qui font l'inverse. Il y a des personnes qui disent « écoute, moi, si j'ai envie d'être en couple... » c'est surtout aussi des personnes qui choisissent de se mettre en couple un peu plus tard, parfois vers 30 ans, t'as déjà tes habitudes, t'as déjà fait ta vie. Donc il y en a beaucoup que j'entends dire, moi, la personne me prend comme je suis, ou sinon tant pis, je reste célibataire.
Voilà.
Et qui vont faire peu d'efforts, enfin, tout est relatif, hein, mais qui feront moins d'efforts dans le couple qu'avec leurs amis, parce que les amis, c'est sacré. Les amis, j'ai ma bande d'amis, on a fait tout ensemble, je peux compter sur eux, donc... ça, c'est bon, je fais beaucoup d'efforts, mais dans mon couple, non.
On entend parfois ces gens qui disent « c'est toujours moi qui lui écris pour prendre des nouvelles. Si la prochaine fois, c'est pas elle qui m'écrit, c'est bon, c'est fini. » Et donc, c'est en ça que je trouve qu'en fait, on a beaucoup plus d'ego en amitié qu'en couple. Mais c'est peut-être qu'une perception personnelle.
Après, t'as des gens qui vont dire, par exemple, « ah, c'est bon, c'est à chaque fois que moi qui débarrasse la vaisselle, la prochaine fois, c'est fini. elle se fait à manger toute seule et puis basta, quoi. »
C'est vrai.
Ça dépend du sens aussi que tu mets dans ce que tu fais. Si tu fais les choses en étant conscient de pourquoi tu fais ça, alors ça prend son sens. Par exemple, en amitié, je serais très mauvaise parce que moi, j'écris pas souvent aux gens, malheureusement. Donc, effectivement, je remercie tous ceux qui prennent de mes nouvelles et après, j'en prends, effectivement. Mais en gros, l'idée, c'est de se dire, au lieu de compter les points comme ça, parce que là, tu fais ce qu'Eric Berne appelle une collection de timbres en analyse transactionnelle. C'est un peu, tu comptes les points positifs, les points négatifs et t'en veux à la personne. Bon, finalement, ça fait souffrir tout le monde, cette histoire-là. Et au lieu de faire ça, demande-toi, OK, j'ai quelqu'un en face de moi, peu importe la relation, qui ne prend pas de nouvelles. Est-ce que ça fait plus de sens pour moi d'entretenir cette relation ? Et moi, je sais que je suis quelqu'un qui aime prendre des nouvelles, donc... ok, c'est comme ça. Moi, je suis bonne là-dessus. Lui n'est pas bon là-dessus. Peut-être il est bon ailleurs. Auquel cas, je le fais. Ou bien, est-ce que de toute façon, cette amitié-là ne m'apporte rien ? Et alors, ça fait plus de sens pour moi de lâcher prise et d'arrêter de prendre des nouvelles parce que je n'ai pas envie d'entretenir ça. Mais si tu fais tes choix en disant « ah bah c'est pas juste, hein. Lui, il fait ça et moi, j'ai fait ça et on n'est pas au même niveau », c'est dommage parce que tu t'auto-sabotes.
Est-ce qu'il y a une bonne manière de se séparer d'un ami ?
Non. Je pense pas. Enfin, la meilleure des manières dans un monde idéal, ce serait d'être hyper honnête, d'avoir une discussion avec la personne pour vraiment jouer carte sur table. Et tu vois, en même temps que je te dis ça, je suis pas sûre que ce soit la meilleure des solutions non plus, parce que parfois, il vaut mieux aussi se séparer en laissant la relation s'éteindre plutôt que de remettre de l'huile sur le feu et peut-être d'amener les gens à se questionner alors qu'ils n'ont pas envie de se poser des questions sur eux-mêmes.
Tout à l'heure, tu as parlé de ton amie Émilie qui vit au Canada. Quand on est adulte, on parle souvent de qu'il faut préserver ses relations, qu'il faut les entretenir. Mais concrètement, comment on fait ? Ça veut dire quoi, entretenir ses relations ?
Émilie, si tu m'écoutes, je suis désolée. Je ferai mieux la prochaine fois. Blague à part, entretenir ses relations, c'est plus, je pense, prendre des nouvelles de temps en temps. Aussi être disponible. Parce qu'on n'est pas obligé de prendre des nouvelles. Tu vois, nous, typiquement, ça fait 5 fois qu'on essaye de s'appeler. Et en fait, vu qu'on n'est pas sur le même fuseau horaire, ça ne marche jamais. Mais je sais que si vraiment elle a un souci, elle peut... Enfin, j'espère en tout cas qu'elle sait qu'elle peut m'appeler. Et moi, pareil, de mon côté. Et ça, c'est quelque chose qui est assez précieux. Après, ça va dépendre, j'ai envie de dire, encore une fois. Il y aura beaucoup ce mot-là dans ce podcast. Hein.
Oui,
ça
oui.
Dépend parce que...
Forcément, chaque être humain est différent.
C'est ça, tu ne peux pas généraliser parce qu'après, ça va enfermer des gens dans des cases et je déteste ça. Quoi qu'il en soit, ça dépend de ta personnalité à toi et puis de la personnalité de ton ami. Si tu sais que parfois, cet ami-là a besoin que tu prennes de ses nouvelles, ça vaut le coup de te mettre un rappel sur ton agenda si tu sais que toi-même, t'es tête en l'air et que ça ne te viendrait pas à l'esprit. Ou un petit message, ou ou tu vois passer une actu de sa part sur les réseaux, bah, tu likes, tu commentes, enfin, tu montres peut-être que tu t'intéresses à elle ou à lui.
Et après, demander aussi ce que la personne a besoin, ça peut fonctionner.
Ah oui, complètement. Dans le plus concret, quand tu as des échanges, moi je parlais de quand tu n'as pas d'échanges forcément réguliers,
oui.
Mais sinon quand tu as des échanges réguliers, bien sûr, tu demandes et tu demandes aussi comment tu peux aider ou comment tu peux être là.
Tout à l'heure, on a parlé de la rupture amicale. Il y a un autre thème que je voulais aborder parce que c'est vrai que c'est un sujet qu'on n'a encore pas du tout abordé dans mon podcast et c'est important pour moi de le faire. C'est le sujet du deuil, en fait. Faire le deuil d'une relation... suite à une trahison ou le deuil lié au décès, c'est un processus qui est long, qui est douloureux. C'est vrai qu'on en parle peu parce que ben, la mort, c'est un sujet qui est quand même tabou. Mais malgré tout, ça existe. On connaît tous quelqu'un qui a perdu quelqu'un. Nous-mêmes, on peut avoir perdu quelqu'un. Quand c'est un parent qui perd un enfant, bon, ben, c'est terrible. L'enfant ne pourra jamais être remplacé. Quand on perd un ami, l'ami ne peut jamais être remplacé, mais malgré tout, il existe d'autres relations amicales autour. Et je trouve que ça se rejoint aussi avec cette rupture amicale de dire, en fait, est-ce qu'aux yeux des gens, ça nécessite aussi ce temps de deuil, ce processus qui est long? À quoi ça ressemble, le deuil amical, en fait?
En fait, il y a deux réponses à ça, parce que ça dépend de quel deuil tu parles. Si c'est le deuil, entre guillemets, d'une amitié parce que tu as cassé la relation, mais que ton ami est toujours en vie, c'est pas la même chose que si tu as vraiment perdu, au sens propre du terme, ton ami qui est décédé. Dans la première situation, comme la personne est toujours en vie, soit tu risques de la côtoyer, soit il y a une partie de toi qui sait qu'elle est toujours là, dans les parages. Et en plus, ça te renvoie plus à ces questions peut-être de trahison ou de choix, de pourquoi tu as cassé la relation. Et là, je renvoie un peu à la question qu'on avait abordée tout à l'heure, comment faire quand on a été trahi ou quand une relation s'arrête. Plus pour la deuxième possibilité, et là, j'ai une pensée toute particulière pour une personne que je suis en thérapie qui me dit souvent que le décès de son ami n'a rien fait dans sa vie et que c'est juste une excuse. Et ben, je dirais que non, sincèrement, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment un vrai trauma et il ne faut pas prendre ça à la légère, en fait. Quand tu perds quelqu'un, en fait, peu importe qui c'est, mais quand tu perds un ami, voilà, pour parler d'amitié, c'est une personne que tu as vraiment investie et avec qui tu as noué logiquement une relation qui est basée sur la sincérité, sur un vrai partage en profondeur. Donc forcément, quand cette personne-là disparaît, meurt, c'est comme une partie de toi, hein, qui s'en va avec la personne. Là, c'est important déjà de prendre le temps, d'accepter ce deuil et de processer par rapport à ça. Parce que tu vas passer par plein d'étapes du deuil. Il y aura peut-être la colère, le marchandage, tu ne vas pas y croire. Ah mais oui, mais si ça se trouve, il est parti en voyage. Enfin, même si on n'est pas fou hein, dans ces moments-là, simplement, on se raccroche à tout ce qu'on peut pour ne pas ressentir cette douleur. Et puis, il arrivera la tristesse, bien sûr, et le vide. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? On avait notre rituel de boire un coup tous les je ne sais pas quel jour, où on s'appelait. Donc, ça laisse un vrai vide. Et autant soi-même, il faut... peut-être pas revendiquer, mais en tout cas assumer cette tristesse-là, parce que perdre quelqu'un, c'est terrible. Voilà. Peu importe qui c'est dans sa vie, s'il a compté pour nous, bah, c'est juste terrible. Et j'invite ceux qui nous écoutent et qui peut-être n'auraient pas été attentifs à ça, si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui a perdu quelqu'un, et même, je vais aller même plus loin, si c'était un animal de compagnie, parce qu'il y en a pour oui, qui c'est vrai. Vraiment un ami. Moi, j'ai un chat, je lui parle. Quand elle me parle, bah, je lui réponds, quoi. Ouais. Globalement. Si je la perdais, je serais vraiment triste. Donc, il faut arrêter de juger, en fait. C'est pas parce que pour soi-même, c'est juste un animal, que pour l'autre en face de nous, c'est juste un animal aussi. Voilà. Donc ça, je pense que déjà, il faut être attentif et soutenir les gens qui ont perdu quelqu'un, quelque chose à qui ils tenaient. Ensuite, pour raccrocher un peu les wagons, il y a le temps, en fait, qui fait les choses. Il faut en parler aussi. J'encourage vraiment les gens qui ont perdu quelqu'un à parler de cette personne en bien, en mal, avec des anecdotes positives, négatives, à la vie, quoi, finalement. Même à se remémorer des souvenirs, même si ça peut casser l'ambiance parfois, bah tant pis, il faut aussi assumer d'être celui qui
casse
l'ambiance.
C'est ce que j'allais dire, parfois quand on parle de nos souvenirs avec quelqu'un qui est décédé, et ben on sent tout de suite ce malaise s'installer de oh, « mais il en parle comme si c'était normal ». Mais en fait, il faut réinstaurer cette normalité.
C'est ça, puis tu as des cultures, par exemple, dans les pays d'Amérique latine, tu as la fête des morts. Enfin, on n'est pas obligé d'être dans une atmosphère de pesanteur. C'est aussi, ça fait partie en tout cas du processus de deuil, d'être capable de reparler la personne qui n'est pas là, en étant ému, en étant triste, et puis en rigolant et en la critiquant. Voilà, ça a été une personne, il ne faut pas sacraliser le truc oui, non plus.
C'était pas une personne parfaite.
Voilà. Et c'est pas parce qu'elle est décédée que ça la rend parfaite et que ça l'absout de tous ses péchés.
Ouais.
En gros.
Attention.
Mais voilà, ça c'est important. Et si je remets quand même ma casquette de psychologue là, parce que c'est important. En général, quand on subit un choc émotionnel, un traumatisme, ça fait partie des traumatismes hein, quand même. C'est normal qu'on fasse des cauchemars ou qu'on ait des flashbacks pendant au moins un mois, parce que notre cerveau a besoin de digérer ce qui s'est passé. Par contre, si vous sentez qu'au bout de 2 mois, on va dire, hein, le souvenir de la personne est encore trop présent, qu'il y a beaucoup trop d'émotions douloureuses pour vous, je conseille toujours d'aller consulter un psychologue pour faire un point. Et il y a une thérapie qui fonctionne très bien pour les traumatismes qui s'appelle la thérapie EMDR. Et ça, vraiment, ça vaut le coup de travailler sur soi dès le départ plutôt que de devoir revenir des années plus tard en ayant accumulé plein de micro-traumas suite à ce trauma-là.
Est-ce que quand on est face à un deuil en amitié parce que la personne est décédée, est-ce que tu crois qu'on se raccroche aux personnes qui l'ont connue en se disant « bon bah, je vais rester amie avec telle personne parce qu'on l'a connue ensemble et que même si nos chemins, nos valeurs ne sont plus alignés, c'est important pour moi de rester en lien avec quelqu'un qui se souvient d'elle. »
Ah oui, c'est complètement possible. Tu as aussi l'inverse qui existe. Je me coupe de tout ce qui me rappelle cette personne parce que c'est trop dur et que je veux faire une vie complètement différente. Il n'y a pas de bonne solution. Hein. Faut suivre aussi son rythme. Simplement, il y a un moment où quand on sort du brouillard, et il y a toujours un moment où on finit par sortir du brouillard, il faut vraiment se reposer les questions essentielles. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que je suis en lien avec cette personne aujourd'hui? Quel sens ça a pour moi? Si c'est juste pour, entre guillemets, sacraliser un mort, c'est pas hyper pérenne comme relation.
Il me reste 2 questions qui n'ont pas de lien avec le décès. La dernière question que je voulais te poser, et c'est important pour moi de la poser à la fin alors que certains l'auraient posée au tout début, c'est quelle est la définition que tu donnes à l'amitié?
J'ai pas réfléchi à ça, j'ai pas bossé mon sujet.
Parce que avec tout ce qu'on a abordé, tout ce qui est très personnel finalement, tu nous as dit aussi un petit peu ton vécu. La définition même de l'amitié, c'est aussi une définition qui est très personnelle. Donc c'était important pour moi de te poser cette question-là, surtout que tu as en plus la casquette psychologique. Donc
je vais faire le choix de te répondre personnellement.
Ouais.
Mais bien sûr, parce que je suis une seule et même personne, il y aura, je pense, du background un peu psychologique. Je dirais que l'amitié, c'est avant tout une relation d'égal à égal, où tu peux parfois avoir des petits rapports de supériorité, mais qui n'est pas de gros enjeux. Donc, on est vraiment sur une relation au même niveau, avec une personne en qui tu peux avoir confiance parce que tu sens que cette personne est disponible pour toi, te respecte, t'estime aussi, et sur qui tu peux t'appuyer si tout à coup, tu as besoin, soit pour un coup dur, soit pour partager une bonne nouvelle.
Je ne t'ai pas envoyé beaucoup de questions par rapport à la trame d'aujourd'hui. Mais c'était important pour moi de savoir si tu devais faire une recommandation culturelle de quelque chose qui t'a marqué, que ce soit un livre, une expo, peu importe, où dedans il y avait une relation amicale qui pour toi a été marquante. Qu'est-ce que tu voudrais nous recommander?
Alors, je vais faire une recommandation culturelle qui peut-être diffère de ce que tu as l'habitude d'avoir. Ça va être sur des séries, parce que j'ai une bonne consommatrice de séries, j'aime bien ça. Et là, il y a 2 séries sur 2 plateformes différentes. Je pense que je peux les citer.
Oui, oui.
La première série, c'est Afterlife. Sur Netflix. C'est une série qui est touchante. Moi, elle m'a bouleversée, mais dans le bon sens aussi. Juste pour faire court, c'est l'histoire d'un homme qui perd sa femme, qui était tout pour lui, et qui va tenter de se reconstruire grâce à ses amis. Et c'est vraiment magnifique. Enfin, en
génial.
Gros, tu as une très belle histoire. Et la deuxième série, qui est un peu moins grave, mais qui est hyper touchante, c'est sur Apple TV. C'est Ted Lasso.
Ah, je savais que t'allais dire
voilà.
Ça. Je suis en train de regarder cette série. J'en suis à la fin de la saison 2 et je ne parle que de ça en ce moment.
Moi, je la trouve géniale parce que oui, un truc que je n'ai pas dit là dans ma définition de l'amitié, c'est qu'il faut que ce soit basé sur une valeur pour moi fondamentale, c'est la bienveillance. Et cette série, je ne sais pas ce que tu en penses, mais elle est pleine de bienveillance. C'est hyper touchant et c'est des vraies relations d'équipe et d'amitié finalement que tu vois se construire malgré les conflits, malgré le fait qu'on ne soit pas d'accord sur parfois des valeurs. Mais il y a du respect, un profond respect, il y a de la bienveillance.
Ouais. Pour faire vite fait le pitch, c'est un Américain qui vient coacher une équipe de football en Angleterre alors qu'il ne connaît pas les règles et qu'il était coach de football américain, donc ce qui n'a rien à voir. Et disons que c'est l'opposé du cliché masculin qu'on peut avoir puisqu'il est dans la communication sans cesse, il est dans l'expression des émotions. C'est hyper touchant comme série et elle est dispo maintenant sur Canal+, puisqu'Apple TV s'est mis sur Canal+ maintenant. Donc pour ceux qui
C'est vrai.
Voudrait l'avoir, c'est le gros plus, on va dire.
Et en plus, tu as quand même un focus après la première saison sur l'équipe. Et là, ça devient intéressant parce que tu as des vraies relations. Mmh. On sort vraiment juste du personnage principal qui est Ted Lasso et tu vois vraiment la vie de l'équipe. Mmh. Et ça, je trouve ça vraiment chouette.
Ouais, c'est vrai. Mmh. Il y a notamment l'épisode de Noël qui est assez chouette. Mmh.
Complètement.
Ouais. top. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te suivre et te retrouver pour celles et ceux qui voudraient en savoir plus sur ton activité, sur toi?
Alors, j'ai un site internet et puis le plus souvent, je conseille de me rejoindre sur les réseaux. Je suis présente sur TikTok, YouTube, Instagram. Sur YouTube, il y a des formats un peu plus longs où j'explique des notions de psychologie un peu plus en détail et je donne des tips, toujours des conseils pour s'améliorer. Et sur TikTok, Instagram, c'est des formats plus courts, mais qui permettent d'avoir un tips directement applicable à la sortie.
Génial. Bah, merci beaucoup d'avoir été dans Friendship. Vraiment... C'était une discussion importante pour moi. Je trouve que c'était important qu'on puisse aborder l'amitié sous cet angle-là de psychologie. Et je suis ravie que tu aies accepté de venir jusqu'à moi pour en parler. Alors, merci beaucoup.
Merci à toi, Solène. Et puis, encore une fois, moi, ça m'a touchée aussi parce que tu m'as posé des questions sur mon expérience personnelle. Mmh. Et en tant que psychologue, on n'a pas l'habitude de parler de soi. Et c'était chouette parce que ça m'a permis de faire des liens aussi. Donc, merci à toi.
Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Friendship. Si tu es encore là, c'est que tu aimes le podcast, alors il te reste une seule chose à faire, parle-en autour de toi, le bouche à oreille c'est encore ce que l'on fait de mieux. Tu peux recommander ton épisode préféré à tes amis, ta famille, à tes collègues autour de la machine à café, mais aussi sur tes réseaux ou en message privé, bref. Merci de faire vivre Friendship au-delà de ton application de podcast. Si tu veux poursuivre l'écoute de Friendship, je t'invite à découvrir l'épisode 64 avec Swan et Luan, deux boules d'énergie pour qui l'amitié est au cœur de tout. Leur histoire, c'est de l'humour, de l'admiration et aussi beaucoup de force et de reconnaissance de partager leurs aventures de vie ensemble. Et en attendant, je te dis à dans 2 semaines dans Friendship. Ciao ! Découvre tout de suite un extrait de l'épisode de Rémi et Pierre. L'épisode arrive dans 2 semaines. Et du coup, est-ce que c'est le projet Pardon GPT qui est venu dire « Ah bah là, on est vraiment amis ».
Je crois pas.
Même pas, hein. Ouais.
En aucune façon, ouais. Non, bah non, enfin là c'est. Enfin, je pense pas qu'on va se mettre une pression particulière ou qu'on soit genre. Si wow, oui, bravo, en fait, Rémi, je suis plus ami avec toi pour cette petite.
Ouais, quand j'avais gagné un point d'amitié. Non, mais il y a aussi un truc de. Je pense que tu crées des relations juste avec le temps que tu passes avec les personnes. Avec Pierre, au final, on passe pas mal de temps ensemble vu qu'il y a les jeux en ligne après les préparations du podcast. Mm. Donc, ouais, ça, on va dire que c'est l'amitié. Enfin, je sais même pas comment tu peux le quantifier, mais. Alors, je pense qu'au bout d'un certain moment, il y a une affinité qui se crée.
Ouais, bah c'est très personnel. Après, à quel moment tu ressens que la personne, c'est ton ami, je pense que c'est très...
Moi, je caractériserais même l'amitié qui s'améliore au moment où elle ne se délie pas. Il y a des gens, au bout d'un certain moment, tu te rends compte que, voilà, en vrai, flemme, quoi. Du coup, on va rester à ce stade-là et tu n'auras aucun... Un peu comme dans une relation amoureuse, quoi. Tu sais, tu relances pas les appels ou tu réponds pas les messages, tu essaies de doucement faire baisser l'intensité du truc, quoi.
Du coup, t'attends
je
que ça meure
là, dans le travail et tout, tu vois qu'on a trouvé aussi le rythme qui va de fréquentation de l'un de l'autre, je pense.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tu veux créer un podcast, mais tu ne sais pas par où commencer ?
Je pense qu'on a ce qu'il te faut.
Notre programme 30 jours pour créer ton podcast répond à toutes tes problématiques.
La conception de ton projet, le format de ton podcast, les visuels, le titre, l'enregistrement, le matériel, l'hébergeur, le montage, la communication, tout est réuni en un seul endroit pour faciliter le lancement de ton podcast.
Mais au fait, nous, c'est qui nous ?
Moi, c'est Florence, créatrice et hôte du podcast « Avant, j'étais prof ».
Et moi, c'est Solène, créatrice et hôte du podcast Friendship.
À nous deux, on a publié plus de 140 épisodes et réuni 120 invités à nos micros.
Notre aventure podcastique a connu de nombreux rebondissements.
L'euphorie du lancement.
La solitude.
Les doutes.
La persévérance.
La passion.
Et enfin, les audiences qui décollent.
Au fil des années, nous avons affiné notre expertise.
Et aujourd'hui, nous te dévoilons toutes nos techniques pour créer ton podcast en toute sérénité.
Alors, n'attends plus pour faire entendre ta voix.
Rejoins-nous dès maintenant sur formationpodcast.podia.com et le podcast n'aura plus aucun secret pour toi.